Reconnaissez avec moi que c'est une drôle d'idée que de partir le soir, pratiquement à la tombée de la nuit, après une journée très remplie, puisque on nous dit que Jésus avait parlé à la foule durant toute la journée. Imaginez, vous parlez, vous prêchez à toute une foule, eh bien vous aspirez plutôt à un repos bien mérité, plutôt qu'aller traverser le lac de Génézareth, la mer de Tibériade, selon la manière de l'appeler, mer de Galilée, on dit aussi. Bon, eh bien, on dit, mais quelle idée curieuse, le soir venu, de partir. Non seulement c'est une idée curieuse, d'autant plus que, vous le savez, le peuple hébreu n'est pas d'abord un peuple au pied marin. Au contraire, il a une très grande méfiance de tout ce qui est liquide, j'allais dire, dans le sens où tout ce qui est les eaux, etc., c'est un peuple plus de commerçants, un peuple de pasteurs. Et c'est intéressant de voir que Jésus invite les apôtres, quand il les appelle, à être des pêcheurs d'hommes, alors que pêcheur n'est pas quelque chose de si répandu. Il y a des pêcheurs, mais il y a beaucoup plus de pasteurs en Israël à cette époque-là. Et donc on voit c'est le Jésus partir. Donc on connaît bien ce récit de la tempête apaisée, etc. Jésus qui part sur les barques, etc. Et puis une violente tempête. Une violente tempête et Jésus qui dormait à l'arrière sur un coussin. C'est intéressant de dire c'est quoi notre manière d'être présent quand on dort. Parce que dormir n'est pas une absence de présence. Dormir, c'est être présent à l'autre autrement. Il y a quelque chose de très fort dans quelqu'un qui dort à côté de vous profondément et vous êtes au contraire d'une manière respectueuse, attentif à ne pas faire de bruit pour le laisser se reposer, se refaire ses forces. Et comment ne pas le comprendre s'il avait prêché toute la journée? Donc la première chose que l'on peut retenir de ce passage, c'est: est-ce que j'apprends à découvrir la présence du Seigneur, mais pas de la manière dont j'ai l'habitude de la découvrir, cette présence, mais d'une autre manière, comme la présence de quelqu'un qui dort, qui est vraiment là, à mes côtés, mais là, d'une autre façon. Donc Jésus nous demande un déplacement, de cette manière, sortir de notre zone de confort, c'est le cas de le dire, d'autant plus que tout ce monde-là ne sait pas nager, évidemment, n'a pas le pied marin, comme je viens de le dire, et donc est dans une perspective de grande peur. Et puis, les disciples réveillent. « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» C'est intéressant de voir que « cela ne te fait rien », je ne sais pas si ça vous... Si j'interrogeais, il y a « cela ne te fait rien », ça vous rappelle quoi? Eh bien, ça rappelle Marthe et Marie. « Cela ne te fait rien, » dit Marthe en colère, que ma sœur me laisse faire le service seule, cela ne te fait rien. Il y a donc une forme de colère, mais qui justement vient d'une expérience de solitude. Comme dans Marthe et Marie, on a souvent pensé à la dimension plutôt contemplative et active de la suite du Christ. Je trouve que c'est une lecture possible, mais la lecture qui consiste à dire que la colère de Marthe vient de sa solitude, et de ne pas demander de l'aide, de même que l'angoisse, on sent une angoisse qui monte, l'angoisse de ces habitants de la barque vient de l'expérience d'une solitude, alors que le Christ est là, il a entendu prêcher toute la journée, peut-être des miracles, on ne sait pas, des gens qui se sont convertis, la preuve c'est que même le soir tombé, il y avait plusieurs barques qui sont parties. Donc on se dit, tiens, il a fait des émules et des gens qui souhaitaient l'accompagner, d'autres barques au pluriel souhaitaient l'accompagner. Donc on se dit, pourquoi est-ce que je suis dans une peur? J'ai une expérience de solitude, j'allais dire même originelle aussi, une solitude, le fait de se sentir seul et sentir dépourvu, alors que Jésus est là, il est présent, mais il est présent autrement. Et puis, c'est intéressant, ensuite on voit Jésus qui se réveille, il menace la mer et s'élance, tais-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, le fruit de la parole du Christ, cette parole du Christ que les disciples ont pourtant entendue toute la journée, hein, et ils auraient dû quand même avoir... Du coup, là, on voit, c'est ce qu'on appelle une parole performative. On appelle ça en théologie, c'est un peu compliqué. Performative, la parole de Dieu, c'est une parole qui accomplit ce qu'elle dit. Notre parole, nous, par exemple, n'est pas performative, et heureusement... Parce que il n'y a que les dictateurs qui voudraient avoir une parole performative qu'ils disent et cela se fait. Mais là, seule la parole de Dieu, et Dieu dit, et cela est. Genèse. Elle est performative, elle accomplit. Donc on voit là quelque chose de la divinité du Christ. Mais c'est intéressant aussi, quelque part, que ces disciples qui ont été appelés sous le registre de pêcheurs d'hommes. C'est étonnant cette histoire de pêcheurs d'hommes aussi. Péché, déjà, péché n'est pas commun, n'est pas familier au peuple hébreu. Il y a des pécheurs, on suppose, mais pécheurs d'hommes. Et alors, du coup, on se dit, tiens, au fond, c'est vrai que personne ne peut rester dans l'eau toute une vie, je veux dire, même plusieurs heures, même si on lui apporte de l'eau douce à boire et qu'on l'alimente par ailleurs, notre corps n'est pas fait pour le milieu aquatique. Et notre corps, et nous mourrions, on pourrait mourir avec plusieurs dizaines d'heures, voire centaines d'heures dans l'eau. Comme ça, on ne supporterait pas. Nous sommes faits pour la terre. Et quand vous entendez ça, vous entendez terre promise. Bien sûr, l'eau versus terre promise. Donc on est fait pour la terre. Et être pêcheur d'hommes, c'est tirer la personne d'un lieu mortifère pour l'amener sur le rivage. La terre promise, quand vous êtes en train de vous noyer, vous voyez, vous n'aspirez qu'à voir le rivage, un peu de pied ferme, de sol ferme sous vos pieds, etc., et de sortir et de vous sécher, etc., parce que vous sentez que vous allez périr, parce que vous ne pouvez pas rester dans l'eau des heures et des heures. Donc, être pêcheur d'homme, c'est tirer la personne d'un lieu mortifère et l'emmener vers la vie. C'est ça que ça veut dire. D'un lieu qui est inhospitalier, comme le milieu aquatique, eh bien, on nous tire pour pouvoir nous emmener dans un lieu sécurisé, un lieu qui nous, au fond, est source de réconfort et de joie. Pêcheur d'hommes, ça veut dire sortir, passer de l'angoisse à la confiance. C'est ça que ça veut dire, pêcheur d'hommes. Passer d'un lieu qui est insécurisé, insécurisé comme le sont les disciples de Jésus dans ces barques qui commencent à tanguer, ils se disent on va se retrouver dans l'eau et qui va venir la soir, la nuit tombée, personne ne va venir à notre rencontre et on va mourir, on est dans l'angoisse, on passe de là et on va vers un lieu de confiance. Sortir de l'anxiété, de l'angoisse pour entrer dans la confiance. C'est ça être pêcheur d'hommes. Et Jésus, ce qu'il fait, c'est ça. Et dans les mots même, on dit à un moment donné, pourquoi Jésus lui dit, pourquoi êtes-vous si craintif, hein, si craintif, c'est-à-dire tout peureux. Hein, tout peureux, voilà. Pourquoi avez-vous de la peur? Et eux disaient, saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci pour ordonner au vent et à la mer? Et c'est là où il faut parfois être attentif, c'est que crainte, vous le savez, n'est pas peur. C'est pas la même chose que peur. Hein? Justement, on passe d'un lieu mortifère à un lieu sécurisé, on passe de la peur à la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est l'expérience de son amour tout-puissant. Hein? Si vous êtes encore dans une peur de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose, vous n'êtes pas encore disciple de Jésus. Vous n'avez pas fait ce passage vers l'autre rive. Passons sur l'autre rive. Hein? Vous n'avez pas fait ce passage, vous n'avez pas fait cette Pâque. Parce que passage, Pâque, c'est passage. Et passage, c'est Pâque. C'est-à-dire la même chose. Vous n'avez pas une personne ressuscitée, vivant de la Pâque. Et donc, c'est intéressant de dire que, en fait, l'expérience de foi a fait passer de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, à l'émerveillement de la puissance de Dieu, qu'on appelle la crainte de Dieu, mais les mots sont piégés, parfois on voit crainte à la place de peur, etc. Non, la révérence, l'admiration, la gratitude face à la puissance du Seigneur. Donc je trouve ce passage-là, il est très, très fort, puisqu'ensuite arrive sur la terre ferme, et le passage d'après, je pense que c'est le dimanche prochain, mais bon, le passage d'après, c'est justement Jésus qui délivre un possédé. C'est-à-dire, un possédé, c'est-à-dire une personne qui n'est pas en mesure d'agir librement, et il vient le délivrer, le passer de ce qui est d'une forme d'entrave, d'une forme d'addiction, on pourrait même dire, de quelqu'un qui n'est pas dans la possession de ses moyens, à un homme libre. Et ça, c'est quoi? Si ce n'est passé de la peur à la crainte, si ce n'est passé de la mer à la terre ferme, c'est pareil. Donc c'est intéressant de voir, le salut, c'est ça. Le salut, c'est ces passages-là. Et toute la vie de Jésus, c'est dans ce passage-là, de la tempête apaisée, hein, que on va voir que tout le temps, ça va être ça. C'est-à-dire sortir d'un lieu d'angoisse, emmener vers la confiance et l'abandon à sa parole. C'est l'histoire d'une vie. Ne nous faisons pas l'illusion, c'est l'histoire d'une vie, ce passage-là. Alors on va demander au Seigneur cette grâce, parce qu'on voit bien dans nos vies, on perd pied. Alors on connaît bien l'autre passage de Saint-Pierre, voilà, qui marche vers Jésus, Jésus qui marche sur les eaux. C'est exactement pareil. Il marche sur les eaux, c'est il domine le monde du mal, il domine le monde de l'angoisse, il domine le monde de manque de confiance. Et Pierre s'approche, etc. Vous connaissez très bien le passage. Là, on est sur la mer, la même mer, pareil, et on se dit, tiens, voilà, il y a un appel à expérimenter une confiance nouvelle, que l'on n'est plus seul, on n'est pas comme ses disciples, on n'est pas comme Marthe face à Marie, hein, cela ne te fait rien, nous ne sommes pas seuls. Il y a à découvrir une nouvelle présence, une manière nouvelle d'être présent du Seigneur. C'est une pédagogie, parce que, évidemment, on veut dire, après une nuit, une journée de prédication, on aspire à dormir, encore une fois. Pourquoi le Christ fait ce qu'il fait? C'est une pédagogie. C'est une pédagogie. Et c'est une pédagogie que nous retrouvons aussi dans l'Eucharistie. Qu'est-ce que l'Eucharistie? Sinon exercer notre regard à découvrir une autre manière d'être présent que le Christ nous révèle. Là, ceci est mon corps, ceci est mon sang. On va demander ce regard-là, cette confiance-là, parce que nos psychologies sont parfois blessées, parce qu'il y a un aspect aussi plus psychologique qui fait que, voilà, on a, malgré nous, hein, on est anxieux, on est angoissé, voilà, il y a des personnes comme ça dont les psychologies sont comme ça, bon, voilà, non, on ne choisit pas forcément sa psychologie. Mais la différence entre la psychologie et la foi, c'est que la foi, c'est aussi un choix. Et donc, tu ne choisis pas ta psychologie, ça c'est possible, parce que les blessures d'enfance, d'abandon, que sais-je, tout ça, les psys sont très forts pour détecter tous ces traumatismes-là. Mais ce que tu peux choisir, c'est la manière de vivre ça. C'est la manière de vivre ça, c'est dans la foi, malgré ce que je peux vivre psychologiquement, j'accède à un autre niveau qu'est la confiance et l'accueil d'une présence. Demandons cette grâce les uns pour les autres en cette Eucharistie. Demandons d'être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.